L'être est la signature des plantes médicinales de Roger Calbermatter. Il y a une analogie entre les fleurs, les émotions et les pensées spontanées. Avant qu'elles ne soient devenues matures et nous fassent passer à l'acte. Mais quel est dès lors le secret qui explique pourquoi la corolle de la verge d'or est si trouée qu'elle donne l'impression qu'on lui a arraché les pétales? On a toujours utilisé avec bonheur les plantes médicinales pour prévenir ou traiter les symptômes physiques de la maladie, depuis les premiers temps de l'humanité jusqu'à nos jours. Depuis quelques décennies, on a recours aux herbacées également en cas de crise psychique, dans la mesure où les plantes peuvent accélérer ou renforcer les processus de transformation. Ceci n'est pas sans poser plusieurs questions. Quel rapport entretient la plante médicinale avec la psyché humaine? Quel rôle joue la signature, c'est-à-dire la forme d'une plante, dans son effet thérapeutique? Quels principes floraux agissent sur le corps et lesquels agissent sur le psychisme? Pour répondre à ces questions, nous devons d'abord comprendre quelle relation l'esprit, l'âme et le corps entretiennent dans les différents règnes de la nature. Esprit, âme et corps, information, énergie et matière. Esprit, âme et corps peuvent être définis de plusieurs manières selon le contexte. Dans le présent texte, nous nous référerons à une définition hermétique, alchimique, valable pour toute chose et pour tous les êtres, pas seulement pour l'homme. Par conséquent, il y a autant de formes d'esprit qu'il y a de formes de vie, puisque par esprit, nous voulons dire l'idée, le plan, le sens présent à la racine d'une chose ou d'un être vivant. Partant, n'importe quel minéral, une plante quelconque ou la moindre espèce animale, et tout être humain possède son propre esprit. Un esprit spécifique. L'esprit est ce qui fait l'individualité, l'unicité d'une chose ou d'un être vivant, qui exprime celle-ci, au final, par sa corporéité. Entre le corps et l'esprit se tient le principe de liaison, l'âme, laquelle accueille les impulsions de l'esprit et les transmet au corps tandis qu'elle s'en imprègne. Nous pouvons également caractériser cette triade par les notions d'information, énergie et matière. Par information, on entend un principe spirituel qui veut s'exprimer dans une forme et, pour cette raison, modèle la matière en une apparence physique. Mais pour imprégner la forme, l'énergie est indispensable. Aussi, l'énergie correspond-elle à l'âme, soit au principe qui relie et transmet l'information, l'esprit, à la matière, le corps. Comment les différents esprits se distinguent-ils dans les multiples règnes de la nature? Chaque forme de vie, comme nous le disions précédemment, est imprégnée par un esprit spécifique. Si nous voulons saisir ce qui unit et ce qui différencie les règnes naturels, nous devons en premier lieu faire la différence entre les diverses formes d'esprit et en second lieu considérer la façon dont l'esprit et l'âme en question s'articulent au corps et donc s'incarnent. L'homme est le seul être vivant sur cette planète à posséder deux principes spirituels, l'un humain, l'autre divin. C'est sur cette particularité que nous devons encore nous appesantir. Dans l'esprit divin de l'homme sont contenues toutes les informations originelles, émanées du Logos, en tant que potentialité. Les différences entre les hommes s'expliquent ici par une variation dans la configuration structurelle de ses potentialités. Dans l'esprit humain et dans l'esprit groupe des animaux, en revanche, de même que dans l'archétype des plantes, toutes les qualités du logos ne sont pas pleinement manifestées, mais seulement certaines spécifiquement, qui sont ainsi mises davantage en exergue. Conscience et forme sont indépendantes de l'incarnation de l'esprit. La mesure dans laquelle l'esprit et l'âme sont incorporés détermine aussi bien le niveau de conscience que la forme du corps et de l'âme. Aussi voulons-nous nous pencher de plus près sur les trois règnes humains, animal et végétal. L'être humain. Chez l'homme, l'âme ainsi que l'esprit humain sont entièrement incarnés dans le corps. C'est la raison pour laquelle non seulement l'homme détient une conscience, mais aussi qu'il a conscience de lui-même. Il est en mesure de se regarder de l'extérieur, comme s'il était étranger à lui-même. Comme dit, nous devons distinguer chez l'homme deux types d'esprit et deux types d'âme, humain et divin. L'esprit humain est tripartite. Tous les hommes ont en commun la première partie, car l'homme est une forme animale supérieure et, à ce titre, comme toutes les espèces animales, sa manifestation biologique est guidée par un esprit groupe qui régule les fonctions de l'espèce et l'instinct de conservation. La deuxième partie de l'esprit humain consiste en la somme de ses expériences, connaissances et de son système de valeurs personnelles. L'essence des expériences engrammées avant la naissance compose la troisième partie de l'esprit humain. Les deux premières parties sont d'ordinaire associées au moi. La troisième à l'inconscient. L'esprit divin, en revanche, est cette part en chacun d'entre nous qui fait de nous des êtres singuliers, individués. L'esprit divin est problématique en ce sens qu'au stade de son développement actuel, l'humanité ne dispose pas encore pour lui d'un corps approprié grâce auquel l'esprit pourrait s'exprimer. C'est pourquoi l'esprit divin envoie ses impulsions à l'âme humaine naturelle, ce qui amène à une confusion entre des influences contraires. Pourquoi en résulte-t-il un problème? L'esprit divin et l'esprit humain ne font valoir à partir de dimensions antagonistes. L'esprit humain a pour tâche de protéger et d'optimiser le corps humain pendant son séjour dans l'espace-temps. À l'inverse, l'esprit divin opère depuis une dimension qui ne connaît ni spatialité ni temporalité. La conscience naturelle est liée à l'énergie et à la matière, et donc inféodée à l'espace-temps. Tandis que la conscience spirituelle divine est illimitée, étant donné que sa source réside dans l'information pure, qui n'est portée ni par l'énergie, ni par la matière. Quand le limité se mélange à l'illimité, naît le conflit. Une tension se fait jour. La responsabilité n'en incombe ni à la conscience naturelle, ni à la conscience spirituelle, mais simplement à la combinaison des deux. Par le mélange des principes spirituels et naturels apparaissent les trois tentations, qui sont au fondement de toute activité humaine et auxquelles on peut rattacher l'origine de tous les conflits qui naissent à l'intérieur de l'homme ou qu'il éclate entre les hommes. L'appétence excessive pour les biens matériels. L'appétence excessive pour la considération et l'honneur. L'appétence excessive pour le pouvoir. Non pas que la soif de possession, de reconnaissance et de puissance sont en soi un problème, car tous les trois sont motivés par l'instinct de survie de l'homme naturel. Mais c'est uniquement l'excès qui engendre les problèmes que nous ne connaissons que trop bien, la violence et le mal. Et l'hybris survient lorsque la conscience naturelle, limitée par l'espace et le temps, tente de matérialiser les impulsions émises par la sphère de la conscience intemporelle et éternelle qui vibre secrètement en arrière-plan. Par là, l'égocentrisme, qui dans sa forme saine répond à un impératif d'autoconservation, s'hypertrophie et conduit à une catastrophe psychologique, sociale et environnementale. L'animal. Chez l'animal, la dimension animique est plus ou moins incarnée. Autrement dit, elle est dans le corps. Aussi, les espèces animales supérieures, principalement, ont-elles une conscience, non seulement au sens de l'instinct, mais également des sentiments, et elles sont en partie aussi capables d'opérations mentales simples et concrètes. Cependant, l'esprit, appelé esprit groupe, n'est pas incarné chez l'animal. Il se trouve à l'extérieur et concerne tous les animaux de la même espèce. Pour cette raison, les divers représentants d'une espèce ne sont pas individués. Au contraire des humains, pour ainsi dire, ils forment à eux tous un unique individu. Les animaux domestiques représentent une exception, car ils peuvent atteindre à une individualisation, certes limitée, mais qui les fait échapper à la loi de l'espèce. Les plaçant plutôt sous la coupe de leur maître ou maîtresse, dont ils vont s'approprier les qualités, L'esprit groupe d'une espèce donnée assure la perpétuation de la forme corporelle spécifique et imprègne les comportements caractéristiques, voire individuels. La plante. Pour ce qui est des plantes, le principe spirituel d'une essence botanique se fait valoir de l'extérieur sur le corps et imprègne la forme. Ce principe spirituel est un modèle archétypal ou plante originelle, comme l'appelle Goethe. Et il correspond à une structure cosmique, une constellation. Pendant la germination de la graine au creux de la terre humide, le génotype, l'ADN de la plante, s'oriente en fonction des directives de sa constellation cosmique et un lien énergétique ténu se tisse entre la plante et son archétype. Ce lien relie la plante aussi longtemps qu'elle vit à l'archétype, et l'on parlera donc à son endroit de l'âme de la plante. L'information archétype et l'information génétique, l'ADN, travaillent de concert à former la plante. Où résident les différences de fonctionnalité entre ces deux principes qui donnent à la plante sa forme? L'ADN contient l'information génétique nécessaire à la formation de toutes les substances dont le métabolisme a besoin de se construire un corps, alors que l'archétype assemble ces substances pour en construire la forme extérieure de la plante. La forme extérieure n'est pas le résultat de l'information génétique, comme le postule par erreur la science, mais elle s'explique par son archétype. Pour cette raison, il est évident que l'archétype d'une plante médicinale, donc l'être de cette plante, vient à manifestation à travers sa forme physique, c'est-à-dire sa signature. Dans cette mesure, il est possible, à partir de la signature de la plante, de déterminer son effet en lien avec son âme-esprit. Dans la deuxième partie de cet article, nous allons prendre un exemple pour illustrer le rapport entre l'être et sa signature. Il s'ensuivra que nous pourrons voir la correspondance avec l'esprit humain et rendre compte de l'effet thérapeutique de la plante. Mais comment est-ce possible? La liaison avec l'arcane, donc avec l'archétype, s'opère-t-elle dès que nous ingurgitons simplement une plante ou que nous en buvions une infusion? Non, car il faut au préalable un processus pharmaceutique qui prend en considération des principes alchimiques essentiels. Qu'est-ce à dire? Dans la plante vivante, mais aussi séchée, l'archétype perd toute efficace, car toute sa force est épuisée après qu'il a donné forme à la plante. Dans la plante adulte, la forme est à son stade d'achèvement. Par conséquent, l'archétype s'est vidé de son pouvoir et n'est plus présent qu'à l'état latent. Pour réactiver l'archétype, celui-ci doit être libéré, libéré de sa prison, séparé de la forme physique. Tel est le but du procédé de la fabrication alchimique, connu sous le nom de panégyrie et à l'œuvre dans certaines préparations homéopathiques qui travaillent à la dissolution de la forme. Par ce procédé, l'archétype est libéré de la forme et peut être mis en résonance avec le médicament qui est ainsi prêt à agir sur la psyché humaine dans un cadre thérapeutique. La plante médicinale offre encore un effet curatif. Quoique de moindre portée par des principes actifs physiques produits par son métabolisme et qui, par conséquent, auront une action sur le métabolisme humain, autrement dit, sur ses fonctions physiques. Comme ni l'esprit, l'archétype, ni l'âme, le lien énergétique ne sont présents dans la plante, mais qu'ils agissent sur elle de l'extérieur, la plante n'a aucune conscience au sens où on l'entend pour l'homme ou l'animal, même si, évidemment, une plante peut ressentir. Quel est le secret de la réussite thérapeutique de l'arcane du végétal? Quand surgit une crise dans la vie d'un être humain, un blocage, ou lorsque les circonstances se liguent pour lui asséner un coup de destin et que certaines de ses qualités ne peuvent s'exprimer conformément à la nature, et c'est là que le flux de la vie est bloqué, on peut, grâce à une plante qui incarne exactement ces mêmes qualités, accompagner un processus de transformation, où nous disons à dessein accompagner, car l'essentiel du travail lors d'une telle transformation psychique revient bel et bien à la conscience. C'est ce que nous aimerions montrer à l'aide de la signature et de l'être d'une plante médicinale très connue. L'exemple de la verge d'or. Signature. La véritable verge d'or. Solidago virgorea. Appartient à la famille des Astéracées, dont la caractéristique la plus remarquable est l'inflorescence disposée en grappes ou panicules. Les composés, comme la fleur du tournesol, ont ceci de particulier que leurs capitules floraux sont si densément répartis dans le réceptacle que l'on croirait ne voir parfois qu'un pétale, alors que c'est une grappe. Les fruits cylindriques sont surmontés d'une aigrette verte. Dans le cas du tournesol, le réceptacle brun central est en fait constitué de quantités de panicules emplies de graines. La couronne ininterrompue de pétales jaunes oblongs qui entoure le disque central de couleur brune est composé de fleurs ligulées sur les pourtours. La verge d'or est une exception dans la famille des Astéracées, car sa structure diffère légèrement de celle de ses congénères. La couronne de ses panicules n'est pas complètement formée. Il manque quelques pétales. Elle donne ainsi l'impression qu'on le lui aurait arraché. Pourtant, vu dans son ensemble, le réceptacle ne donne pas ce sentiment d'indigence. Les pétales pris ensemble donnent l'image d'un tout harmonieux, très lumineux, parce que D'une part, les panicules sont très serrées et les pétioles dentés, et que, d'autre part, elles rayonnent d'une vive couleur jaune d'or. Interprétation. Notre enveloppe psychique est déterminée avant tout par nos émotions. Les relations qui nous font ressentir des émotions positives envers les gens qui nous sont très proches, parents, conjoints, enfants et amis, ou que nous fréquentons quotidiennement, tissent un réseau psychique au creux duquel nous nous tenons et qui nous assure un certain sentiment de sécurité. Ce réseau forme et soutient notre enveloppe psychique. La psyché de l'homme correspond, pour la plante, à ses pétales. Ceux-ci sont analogues aux émotions et aux pensées qui viennent d'éclore et ne sont pas encore assez matures pour faire passer à l'action. Quelle signification cela a-t-il que les corolles de la verge d'or soient dépenaillées et donnent l'impression que certains pétales ont été arrachés. Peut-on y voir la trace d'une perte, d'un manque affectif? Pour lire la signature d'une plante, on peut s'en tenir à une seule règle d'or. Si une plante, dans l'une des parties qui la constituent, diverge de la norme par un manque, un défaut, c'est qu'elle a également la solution à cet état de fait. Car tout dans la nature tend vers l'équilibre, l'harmonie. Tout écart est compensé. Et dans le cas de la verge d'or, que doit-on en comprendre? Ses pétales sont si brillants, si parfaits, que ceux qui lui font défaut se voient à peine. On dirait que, grâce aux absents, les autres pétales peuvent se lier en un tout encore plus riche et dense. Aussi peut-on reconnaître dans cette signature une force qui offre à l'homme la consolation et l'énergie psychique. Notamment si une relation qui comptait vient de se rompre, soit par la mort d'un proche, soit parce qu'une crise conjugale ou un divorce y ont mis un terme, soit parce qu'on a perdu son travail ou un ami. Dans ces cas-là, un traitement à base de verge d'or peut aider. L'information qui se démontre par la signature de la verge d'or, se confond avec celle qui correspond dans l'esprit humain, et il s'en dégage alors une action stimulante et guérisseuse. Il est loisible de considérer la signature d'un autre point de vue qui revient au même. L'incomplétude revient vers l'homme en se parant des traits de la totalité, de l'exhaustivité. Quand quelque chose est complet, il est comme fermé sur lui-même et autonome. Ce qui souffre d'incomplétude, au contraire, sera en quête d'un accomplissement par le truchement d'une autre personne, d'un ou une partenaire. Ce n'est pas rond, pas parfait, dépend de sa relation à l'autre. Ce n'est que par la liaison avec autrui que quelque chose de complet d'apte à la vie apparaît, Telle est la situation réelle de l'homme, car la perfection n'est possible que sur le terrain des idées et des principes, mais pas dans la réalité.